On va passer à une très belle nouvelle maintenant. Le programme Un vélo, une ville qui offre un service de triporteur gratuit aux personnes de 65 ans et plus est de retour à Sainte-Julie jusqu'au 23 août. Michaël Godbout, directeur des opérations du projet, est avec nous. Bonjour, M. Godbout.
Bonjour, Rosemary.
Donc, d'abord, là, au-delà de la question de l'âge, à qui s'adressent vos balades en triporteur? Qu'on trouve vraiment adorable, Vanessa et moi, oui. Si jamais le ton de ma voix n'était pas clair.
Ben, merci beaucoup. Ben, en fait, ça s'adresse à tous les aînés du Québec dans plus de 18 villes cet été et même dans une ville à Dieppe, en Acadie, au Nouveau-Brunswick.
Ah, c'est super!
Puis pour en fait, c'est quelle personne vous ciblez concrètement? J'imagine pas juste les personnes âgées, mais les personnes qui ont besoin d'aide ou de sociabilisation ou de transport.
Oui. Ben en fait, la problématique principale qu'on veut adresser, c'est l'isolement des personnes âgées. Mm-hmm. Mais on essaie aussi d'aller chercher des personnes à mobilité réduite, des personnes avec un handicap visuel. Puis en général aussi, on ratisse assez large. Toutes les personnes en haut de 55 ans, mais on voit souvent des aînés, entre guillemets, qui viennent avec leurs parents qui ont au-dessus de 90 ans.
Ah, wow! Puis à quoi les participants ils profitent des triporteurs pour faire quoi?
Il y a deux principaux types de balades. En fait, il y a les balades plus de plaisance où le conducteur, qui est un étudiant, va amener la personne dans des sentiers qui sont de plaisance, donc plus dans les parcs, prendre de l'air frais, prendre du soleil. Puis on roule vraiment à une vitesse très, très tranquille. Puis le but, c'est vraiment de créer du lien. Donc le conducteur, il va entretenir une discussion avec la personne tout au long. C'est vraiment plus se promener pour le fun. Le deuxième volet, c'est plus des balades utilitaires. C'est aller faire des petites commissions, aller à des rendez-vous, aller aider la personne à faire son épicerie ou aller chercher les médicaments à la pharmacie ou passer à la caisse, faire des petits paiements, des trucs comme ça.
C'est magnifique. Les étudiants que vous engagez, ils étudient en quoi? Est-ce qu'ils sont en travail psychosocial ou ils peuvent juste avoir des aptitudes liées à l'entre-gens?
En fait, on a des étudiants d'un peu partout. Autant qu'on a des étudiants qui sont en quatrième ou cinquième secondaire, donc souvent c'est leur première expérience de travail, autant qu'on a aussi des conducteurs et conductrices qui sont rendus à l'université. J'en ai en anthropologie, j'en ai en travail social, il y en a même en sciences, en ingénierie. Donc on a vraiment des étudiants de partout, puis c'est vraiment un emploi d'été, donc des fois, c'est plus rattaché à ce qu'ils font comme étude, puis des fois, c'est vraiment une expérience nouvelle pour eux.
Oh, puis est-ce que les personnes qui utilisent les balades en triporteur reviennent souvent? Avez-vous des habitués?
Oui, il y en a vraiment. En fait, il y a souvent une relation intergénérationnelle vraiment forte qui s'installe, puis souvent, je me fais raconter des histoires de personnes qui reviennent à chaque semaine, puis même plusieurs fois dans la même semaine. Puis souvent, les conducteurs puis les aînés, ils se connaissent par leur nom. Puis j'ai même des étudiants qui vont dîner avec les résidents dans la résidence le midi. Puis souvent, s'il y a de la météo qui est pas clémente, soit une journée vraiment canicule ou une journée avec la pluie intense, les étudiants, ils vont faire du bénévolat à la résidence. Donc, ils font vraiment plein d'activités. Puis le but, c'est de briser l'isolement des aînés. Puis s'il fait pas beau à l'intérieur, mais ils vont quand même servir des repas ou faire des loisirs à la résidence.
Bon, j'ai le cœur qui fond. Bravo pour tout ça. C'est magnifique, Michaël Godbout.
Ben merci au nom de toute l'équipe, puis surtout au nom des étudiants. Puis il y en a plusieurs qui reviennent d'été en été, puis qui créent vraiment des relations à long terme, puis qui sont vraiment engagés là-dedans. Donc nous, on est fiers de ça.
On salue votre dévouement, tout le monde.
Ben merci beaucoup.
Au revoir. Mais à quel point c'est cute.
C'est tellement hot, pour vrai. Moi, je veux ça pour moi aussi. Là. Les jeunes trentenaires.
Ton isolement.
Les jeunes trentenaires ont absolument besoin de se déplacer de manière économique. J'ai quatre amis, Rosémie. Si je pouvais en trouver, en rajouter un autre pour que ça rentre sur les cinq doigts d'une main, je vais le prendre. Okay? Moi aussi, j'ai besoin de parler avec quelqu'un quand je mange à la résidence, à ma résidence.
Parfait, on en prend bonne note. Si vous voulez être bénévole dans la vie de Vanessa Destinée, écrivez-nous sur la page Facebook ou Twitter de Cube. Bob.
Sinon, on rappelle quand même que vous pouvez aller sur un vélo, une ville, oui, là, pour avoir plus d'informations parce que la liste est grande. Il y en a même dans Ahuntsic, Quartier-Ville, mon quartier à Montréal, mais il y en a partout vraiment au Québec. Fait que ça, c'est
je savais pas. Je savais pas qu'il était dans autant de villes. Bravo. Un dossier préoccupant mis en lumière par Radio-Canada. Maintenant, je l'ai lu ça ce matin, des activistes véganes intimideraient des agriculteurs au point où ça deviendrait une source de stress pour les travailleurs. Il y a la jeune agricultrice Mylène Bégin d'Abitibi-Témiscamingue qui a témoigné. Elle a dit que certains messages lui font craindre pour sa sécurité. Elle raconte notamment qu'un homme a pris des captures d'écran des photos qu'elle met sur Instagram. Il les a partagées sur son compte à lui puis a ajouté des couteaux dans le visage de la femme en écrivant le mot « psychopathe » sur son front. Dans le même article, Pierrette Desrosiers, qui est psychologue spécialisée là, dans le monde agricole, indique que ces stratégies-là employées par les militants véganes sur les réseaux sociaux sont, je la cite, une source de stress avec laquelle doivent composer de plus en plus d'agriculteurs. Sérieusement, ça fait dur.
Ça fait très dur. Puis honnêtement, les messages qu'on envoie à ces agriculteurs, on compare par exemple l'insémination artificielle des vaches au viol. On utilise des mots comme meurtre, kidnapping pour décrire le travail des éleveurs. Et on sait très bien que la détresse des agriculteurs, c'est un enjeu réel. C'est un enjeu qui les guette.
Le taux de suicide dans la communauté agricole est deux fois plus élevé que dans la moyenne canadienne. Hein, la gang, c'est un milieu qui ne va pas bien.
Absolument.
Et je comprends tout à fait les revendications qui peuvent être faites par les militants véganes.
Quant à l'industrie en général.
Vous savez que je ne suis pas contre. On a reçu Philippe. Ah, crotte, j'ai oublié PH Quentin. C'est son nom.
Oui, c'est juste l'appeler avec son nom d'influenceur.
PH Quentin, en fait. Pascal Hugo, voilà, je l'ai. Pascal Hugo Quentin, qui est un animateur d'une série de podcasts qui s'appelle Sans filtre et qui est aussi vraiment un militant vegan et qui est
un journaliste gonzo à ses heures.
Absolument. Qui était venu nous expliquer qu'il fait présentement sa maîtrise sur la violence utilisée par certains militants vegan et qui lui-même la dénonce. Donc, on a parlé au micro de l'importance d'une transformation du milieu alimentaire, mais jamais de la vie. On peut faire ça à des agriculteurs qui essayent de gagner leur vie et qui très souvent adorent leurs animaux.
Absolument, et ça fait craindre aussi le pire pour la relève qui a juste pas le goût. T'sais, on parle de nos régions, on parle de ce travail-là qui est dur, qui est épuisant sur le corps, qui est épuisant sur l'esprit. Et quand tu vois que tu peux être la cible de menaces comme ça, la relève, je pense qu'elle a pas le goût d'être tellement présente. Là. C'est un élément qui décourage. Et ça va loin. Là. Quand on parle des insultes, on parle de gens qui vont même s'en prendre d'autres enfants qui imitent leurs parents et qui vont s'en prendre à des enfants d'agriculteurs dans les cours d'école en les traitant de pollueurs, de meurtres, de fils de meurtriers, par exemple.
Ça me
donc,
brise
c'est le vraiment
cœur.
Très intense. Et j'ai découvert, en faisant de la recherche sur le sujet, Rosémie, un truc que je connaissais pas du tout. Savais-tu que à chaque janvier, chaque nouvelle année, on fête le Veganuary, qui est un jeu de mots, une contraction de vegan et du mot January, donc le mois de janvier en anglais. Et pendant cette période, des militants véganes invitent les gens profitant, en fait, des résolutions, de la période des résolutions, à délaisser leurs habitudes alimentaires, leur consommation de viande. Et à la base, c'était censé être un mouvement amical pour rappeler aux gens qu'il existe des alternatives.
Oui, ça m'apparaît être une très bonne idée.
Tout à fait sain, mais évidemment, il y a eu des dérives et ça s'est transformé en mouvement haineux, carrément. Donc, moi, ça me fait toujours rire des militants qui se veulent pacifistes, qui ont plus d'attention pour le soin des animaux que pour le soin des humains.
Mais c'est parce qu'ici, on dénonce la violence envers certains êtres vivants en reproduisant une violence sur d'autres êtres vivants.
C'est ça, c'est épouvantable. Et donc, il y a un fermier qui a livré un témoignage à CBC au mois de février dernier en disant que pendant ces mois-là, ce mois-là de January, de janvier, donc, les attaques, là, c'était 80% plus élevées qu'à l'habitude. Donc, ça devenait une spirale infernale de laquelle ils ne pouvaient pas se sortir. Les attaques viennent sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook. Ils reçoivent des lettres par la poste, des espèces de campagnes de salissage, de diffamation et d'intimidation pour le forcer à cesser ses activités. Donc, il dit, évidemment, on reçoit des menaces durant toute l'année, comme le soulignait cette jeune agricultrice en entrevue à la presse canadienne. Mais pendant le mois de janvier, c'est particulièrement fort. Et honnêtement, Rosémie, c'était la première fois que j'en entendais parler. Donc, bien preuve qu'on ne parle pas assez de la détresse des agriculteurs.
Ils ont toute notre empathie.
Absolument.
On termine avec une histoire comme tu en raffoles, Vanessa.
C'est toujours moi qui les trouve.
C'est toujours toi qui m'envoient là, un inbox avec beaucoup d'enthousiasme en faisant « Regarde cette vidéo-là, c'est génial ». Et aujourd'hui, le coup génial, c'est celui d'un trafiquant de drogue brésilien qui a essayé de s'évader de prison en se faisant passer pour sa fille de 19 ans. Et étonnamment, là, ça n'a pas fonctionné.
Ben écoute, qui l'eût cru? Vous irez voir des images de cette tentative d'évasion.
La vidéo est disponible sur le site du Journal de Montréal.
Sur le sac de chips, effectivement. Mm-hmm. Et là, il faut comprendre. Là. Le monsieur, là, il était, on peut pas dire qu'il était pas dédié, hein, qu'il avait pas soif de liberté, parce qu'il est allé très loin
dans
sa mise en scène. Alors, on parle de vêtements d'adolescente, d'une brassière, d'un soutien-gorge qu'il aurait porté, d'un masque en silicone. Et c'est là que je décroche.
Ça, c'est la partie la plus rochante. Là. Quand on voit le criminel enlever son visage, un peu comme dans Mission Impossible.
Oui, tout a été filmé, hein, sachez-le.
Oui,
tout
est filmé. On peut le voir. Il enlève le visage en latex de sa fille sur sa propre tête.
Et il y a une perruque aussi très longue et on dirait une poupée gonflable qui imite une Lolita japonaise. C'est terrible. Il y a comme une espèce de chandail rose aussi, avec une petite veste en jeans. Et il avait mis des lunettes. Parce qu'évidemment, on sait qu'une fois qu'on a des lunettes, le look est complété. Parlez-en à Clark Kent, alias Superman, dont on ne devine jamais l'identité grâce à ses mystérieuses et mystifiantes lunettes. Donc, je pense que c'est ce qu'a essayé Clovino da Silva, qui a reçu en visite sa fille et qui en a profité là, pour garder une petite mallette qu'elle lui avait apportée pour planifier sa sortie de prison un peu plus tôt que prévu. Malheureuse.
Apparemment que les gardiens l'ont trouvé louche, sa fille, là, quand elle est sortie avec son espèce de tête en latex.
S'il vous plaît, allez voir des photos de la tête écrasée par terre.
On dirait
Madame Doubtfire. Tu sais, quand Jean-Robin Williams, il met sa face dans la tarte parce que son visage en latex est tombé par la fenêtre.
Absolument.
C'est une combinaison des deux, le visage entartré et... Mais face de latex, tout est fouetté.
Honnêtement, s'il y avait un film sur la vie de ce criminel-là, je le louerais dès ce soir, Vanessa.
Juste préciser pour terminer, Rosémé, que le prisonnier de 42 ans a été transféré dans une prison à sécurité maximale. Il ne sera pas libéré avant l'âge de 73 ans parce qu'il a été condamné à prison à vie.
À moins qu'il réussisse à se faire passer pour quelqu'un d'autre.
Un alien. Extraterrestre, comme Area 51.
Un dossier qu'on continue à suivre de près.
Absolument.
Merci Vanessa Destiné. On va attendre l'arrivée d'Anaïs avec une chanson de circonstance aujourd'hui. This is America de Childish Gambino. Il était tête d'affiche de Chaga hier soir et c'est un de mes coups de cœur au rayon de l'art qui dénonce. Allez tout de suite regarder le vidéoclip de la chanson si c'est pas déjà fait. Moins bon que la vidéo du criminel qui se fait passer pour sa fille, mais quand même important.
Tout aussi coup de poing. Slipping up, look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping up. Don't catch you slipping up. Look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping up. Look how I'm living up. Police be tripping up. Yeah, this is America. Guns in my area. I got the strap.